Actu SF, les podcasts.
Bon ben, du coup, je vais commencer par présenter Pierre, notre cascadeur, et aussi l'auteur. Alors, le sabot de j'arrive pas à le prononcer.
Sleipnir.
Sleipnir.
Vous voulez que je le prononce à la norvoise?
Oui.
Sleipnir. Voilà la bonne voix.
Alors, je te le mets devant. Voilà. Parce qu'ils sont vraiment, super en plus. Là, vraiment la couverture est magnifique. Manuel Sarr, avec le dit du Bigard. Là aussi, on a encore une autre vue complètement différente. Hein, et puis, alors, notre troll. Jean-Claude Deniac. Avec un troll qui affronte des situations un peu particulières, en tout cas finalement très proche des nôtres. Donc la question que j'ai envie de poser à ces messieurs, c'est... D'ailleurs on n'a que des messieurs, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Pourquoi les trolls? Pourquoi les vikings? Pourquoi cet univers qui commence?
Des fois que sa chaise s'effondre, on va commencer par lui.
C'est à cause de ton masque de troll, c'est ça le truc. Est-ce que vous m'entendez bien?
T'as un micro, Pierre?
Oui, mais moi j'aime bien travailler sans, oui.
Sans filet.
Donc, voilà. Donc voilà. Pourquoi les vikings? Parce qu'en l'an 2000, j'ai découvert Roland. Celui qu'une certaine série a appelé Rollo, ce qui m'a beaucoup amusé, parce que quand il est baptisé. Il s'appelle Rolf, et puis quand il arrive en viking, il s'appelle Rollo. Enfin bon, c'est l'histoire à l'envers. J'ai décidé de raconter l'histoire de Roland, le fondateur de la Normandie. Puis j'ai fait la trilogie, et puis ça a bien marché. Puis il y a eu une tapisserie à l'égal de la tapisserie de Bayeux, 20 mètres de long. Et puis il y a eu un spectacle. Et puis après, on m'a demandé encore de faire les sagas des neuf mondes. J'essaie de résumer, hein, les gars. Et puis, saga des mers grises. Et la raison fondamentale, c'est que je pense que la littérature, en particulier nordique, est extraordinairement mal connue et que j'entendais tout le temps des conneries sur les vikings. Donc on va tout de suite mettre fin à 5 idées idiotes. Vous voulez bien?
Oui, j'aurais gagné.
Ok. À part les chaises dégueulasses. Bon. Donc, 1. Non. Les vikings ne naviguaient pas sur des drakkars. Vous oubliez ça, c'est un mot du 19e siècle. 2. Ils ne portaient pas de casque à cornes. 3. Ils ne buvaient pas le sang de leurs ennemis dans leur crâne. 4. Tous ensemble, ils avaient plus de 3 neurones et c'était une civilisation. Et enfin, tout dernier point, oui, il leur arrivait d'avoir peur et ne volaient pas par-dessus les falaises. Voilà, une fois qu'on est d'accord avec ça, on peut commencer. Voilà, je m'en tiens là parce que sinon je bavarde.
Ah bah oui.
Et voilà.
Alors, Manu.
Ouais. Donc, alors pour moi les Vikings, c'est ça vient de quelque chose de beaucoup plus classique et télévisuel. Dans les années 80, je découvre les Chevaliers du Zodiaque, l'arc nordique, et je me suis dit tiens, c'est marrant, il y a des super-héros chez les Nordiques. Et à partir de là, ben, je me suis rendu compte que non, pas du tout, il n'y a pas de super-héros, mais il y a toute une mythologie bien riche. Donc j'ai fait le contraire de Pierre, en fait. Pierre est parti d'un aspect historique de la chose pour raconter l'imaginaire. Moi, je suis parti de l'imaginaire pour finalement, tout en restant dans l'imaginaire, à bien encadrer mes histoires, mes contes, dans un cadre historique, structure mentale, civilisation, tout ça. Parce que effectivement. Tout ce que j'avais pu voir un petit peu après ces fameux chevaliers de Zodiac, c'était du grand n'importe quoi, que ce soit les Vikings de Fletcher, ou même dernièrement la série Viking, même si c'est un petit peu plus nuancé, un peu de littérature aussi, où on utilise un petit peu, et je ne parle pas des Marvel, hein, parce que c'est encore autre chose, c'est juste un vocable qu'on utilise et un marteau qui traînait par là, mais ça n'a rien à voir avec la mythologie viking. Voilà, et après, donc, j'ai découvert que les écrits typiquement... du nord de l'Europe, qu'ils viennent de Suède, Norvège, Danemark ou Islande, et c'est là que le plus gros du travail a commencé, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, que je ne connaissais rien du tout à cette civilisation, j'avais tout à apprendre et que ça a été un bonheur immense de découvrir dans ce nord de l'Europe qu'on imagine aujourd'hui un petit peu idéal, qu'il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et que on racontait surtout beaucoup de conneries.
Voilà. Moi, c'est en fait encore plus différent qu'eux parce que j'ai découvert effectivement il y a un certain temps que je ne savais rien sur les Vikings et ça a continué jusqu'à ce jour. Donc, je ne sais toujours rien. Simplement, bon, je suis allé un petit peu dans ces pays-là, me balader un peu, j'ai lu des bouquins et tout, mais je ne suis absolument compétent dans aucun domaine les concernant. Je ne sais rigoureusement rien. Par contre, il y a des trolls. Et ça, les trolls, quand vous vous baladez un petit peu au nord de la Norvège, quand vous allez dans les îles, vous allez dans le Lofoten, vous allez, je ne sais pas, faire un petit peu la frontière avec la Finlande, des coins comme ça, vous en voyez sous la forme de tas de cailloux qui sont restés là et qui ont véritablement cette forme-là. Je veux dire, vous avez des trolls assis, vous avez des trolls allongés, vous avez des trolls en train de faire des choses plus ou moins mystérieuses, mais vous en avez, quoi, vous en croisez. Et au bout d'un certain temps, ça finit par percoler dans votre tête. Et je me suis toujours dit, mais tiens, c'est marrant, ils sont là, ces trucs-là, pourquoi on ne s'en sert pas? Et puis, comme j'ai aussi la chance de vivre dans un univers dans lequel il y a des trolls en permanence, c'est-à-dire que je travaille dans un univers industriel, je suis ingénieur de recherche, je croise énormément de sociétés, des choses comme ça, et des centres de recherche, des trolls, j'en vois plein Internet. Donc je me dis, bah, tiens, on va peut-être avoir envie de raconter des conneries, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, les conneries, c'est une chose que j'ai énormément de plaisir à raconter. Je veux dire, j'ai pas vraiment l'impression de sortir de ma zone de confort quand je raconte des conneries. Donc je me suis dit, pour une fois, je vais parler de choses que je connais bien, c'est-à-dire les stupidités, et je vais mettre des trolls et des nains et des chevaliers teutoniques et des créatures encore plus dangereuses. Par exemple, j'ai des espèces de nécromants particulièrement terrifiants que j'ai mis aux ressources humaines, et évidemment la créature la pire de tous, qui est le stagiaire. Et à partir de là, il était donc normal qu'il y ait un troll là, et il est apparu, et puis à partir de là, c'est lui qui gère. Donc moi, je n'ai absolument aucune information technique intéressante à vous fournir, ni sur les Vikings, ni même sur les trolls. Je connais le mien, je connais sa copine, mais c'est tout. Et donc, ne me demandez rien d'intelligent. Par contre, si vous avez besoin de conneries, je suis à votre disposition et je peux en fournir une quantité, je dirais, relativement illimitée et que je renouvelle, vous voyez, de manière assez assez permanente.
Bon. Ah,
mais c'est toi qui m'as invité, hein. Tu m'as dit.
Donc, bon, toi, donc ça c'est le troll dans l'univers du travail, ce qui est assez spécial. Et vous avez aussi choisi d'aborder deux périodes complètement différentes de cette mythologie, puisque il y en a qui va être situé ces histoires plutôt avant le crépuscule des dieux, et le second c'est plutôt du post. Ça fait pas du post-apo.
On pourrait parler un peu de post-apo nordique. En fait, je me suis heurté à une difficulté tout de suite, c'est que tous les historiens de la civilisation viking et de la mythologie s'accordent sur une chose, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. On parle toujours du fameux Ragnarok, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que les dieux sont morts? Est-ce qu'ils sont partis? Est-ce qu'ils sont partis faire la foire? On ne sait pas du tout. Il y a des dizaines d'interprétations. Donc moi, je me suis dit, c'est un peu embêtant quoi, d'écrire des histoires dont on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Donc je suis parti du principe que le Ragnarok se passe. Asgard est coupé. Donc Asgard, c'est le domaine des dieux. Est coupé du Midgard, le domaine des hommes. Le fameux Bifrost, le pont arc-en-ciel qui faisait la jonction entre les deux, est cassé. Et les dieux, en partant, en vacances, ou en étant morts, ou quoi que ce soit, ont emporté avec eux une portion de notre Scandinavie à nous. Alors, bien sûr, ils n'ont pas pris les pierres, les lacs, les ruisseaux, les forêts, tout ça. C'est comme un dédoublement, donc, dimension parallèle. Et là-dessus, mes braves vikings se retrouvent sur un Midgard qui est ailleurs, entouré de brumes. Le soleil est toujours dans la panse d'un des loups du Garmon, si je me souviens tout bien. Donc il fait tout le temps gris, le ciel est bas, il neige tout le temps, il fait très froid. Et les hommes se posent la question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Enfin, quand je dis les hommes, c'est les hommes et les femmes, je simplifie un petit peu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, ils font pas grand-chose, sinon que se débattre, comme on a toujours fait quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Sauf que dans mes histoires, enfin dans les trois premières en particulier, nous allons suivre, enfin c'est un peu un petit prétexte, j'ai fait le choix de raconter que des histoires féminines, de femmes,
qui ont été extrêmement importants dans la civilisation nordique, comme dans toutes les civilisations, en règle générale, de toute façon. Mais je n'ai pas voulu faire des femmes, des super-héroïnes, puisque déjà, par définition, une femme est héroïque. Donc je ne voulais pas...
Surtout la mienne. Hein.
Oui, surtout la mienne. Et je ne voulais pas en rajouter. Moi, je voulais prendre des femmes qui sont simplement confrontées à un monde qu'on estime masculin, mais qu'on peut quand même nuancer un petit peu, et surtout beaucoup nuancer chez les Vikings, comme chez les Celtes en particulier aussi. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on va pouvoir réagir tout en s'affirmant, ou ne pas s'affirmant, mais être à leur place tout simplement. Parce que être à sa place, ce n'est pas forcément s'affirmer, ce n'est pas forcément revendiquer. C'est être là, tout simplement, et faire ce qu'on a à faire. Par contre, je voulais un cadre qui soit au plus juste. Alors, avec ça, je me suis aidé de toutes les recherches archéologiques qu'on trouve un peu partout, que ce soit sur Internet. En France, on avait des bons spécialistes. Bon, alors moi, j'ai commencé avec Régis Boyer, puisque à l'époque, il n'y avait que M. Boyer, pratiquement, qui travaillait sur la question. Mais depuis, il y en a beaucoup d'autres qui sont arrivés, qui ont un peu bousculé le père, et c'est bien parce que ça remet des choses en perspective. Je pense à François-Xavier Dillemann ou à Jean Renaud, ou Patrice Lajoie aussi, que j'aime beaucoup, parce que je pense que beaucoup de monde le connaissent ici, Patrice, donc qui, même s'il est plus sur les Slaves, a une connaissance sur les Vikings aussi, enfin sur les Nordiques, assez sympathique. Donc voilà, donc je voulais vraiment être au plus près des structures mentales, de la vie quotidienne, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer, parce que archéologiquement, il n'y a vraiment que depuis une vingtaine d'années que ça commence vraiment à se développer, qu'on arrive à avoir des chantiers beaucoup plus accessibles, qu'on arrive à mettre de l'argent dedans, et surtout plein de choses qui bousculent toutes les idées reçues qu'on pouvait avoir sur la civilisation nordique, qui pendant très longtemps, le disent les pierres, se cantonnait aux raids des bateaux vikings sur nos côtes, conquête de l'Angleterre, de la Normandie, enfin, les joyeusetés d'hommes en vadrouille. Voilà.
Alors, tu me donnes l'occasion de parler du dédoublement, ce qu'on appelle le hamr chez les Nordiques. Donc le dédoublement, c'est tout simplement la capacité de se transférer soit dans une autre situation, soit dans un autre corps. Alors donc, je vais vous parler de mon hamr à moi. Je suis parti d'une perspective historique comme lui. J'ai eu la chance de rencontrer feu Régis Boyer, notre père à tous. De travailler avec Jean Renaud, qui est un spécialiste des Vikings. Et ce qui m'a intéressé d'abord, c'était de comprendre cette période. Quelle était la relation avec la nôtre? Pourquoi une série de 150 mots français sont des mots d'origine nordique? Pourquoi tous les mots de navigation, à peu près, sont d'origine norroise? Pourquoi nous avons une certaine vision du monde? Alors, Je vais essayer de résumer pour qu'on ait une ligne du temps, comme ça on sait de quoi on parle tout de suite. Généralement, ça discute, on commence la période dite viking, c'est-à-dire les Scandinaves qui partaient Utvikingar, c'est-à-dire en expédition, on la commence le 8 juin 793, c'est vraiment une date à pouf, parce qu'à mon avis il y en a eu une autre, avec l'attaque de l'abbaye de Lindisfarne, dans la Northumbrie. Et on termine la période viking traditionnellement le 25 septembre 1066, peu avant la bataille de Hastings, quand Harald l'Impitoyable est battu à Stamford Bridge. Voilà. Donc, c'est 250 ans d'histoire qu'on a souvent tendance à vouloir, réduire à très peu de choses. Moi, la période qui m'a intéressé, c'est la période des premières explorations, 793-850. Après, ce sont les grosses explorations, les découvertes. Puis l'an 900, c'est la fondation des premiers, on va pas les appeler les royaumes. Vous savez, par exemple, tiens, York, c'était Jorvik, c'était une ville viking. Dublin, Dyflin, c'était une ville nordique. La Normandie, 911, c'est une formation des Scandinaves. Et enfin, beaucoup de choses que vous connaissez aujourd'hui, vous payez tous votre cadastre? Vous payez votre cadastre? Ils ne payent pas leur cadastre. Ben, le cadastre, c'est une invention norroise. Voilà. Donc, on est loin d'être face à des gens tout à fait désorganisés. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment, comme lui, comme mon ami Manuel, comment on vivait à l'époque, comment on raisonnait, pourquoi on partait sur les mers, pour quelles raisons, et quel rapport on avait avec les divinités. On rediscutera ça peut-être de tout à l'heure, mais on a tendance à les limiter à Odin, Thor, peut-être Loki, vous avez vu ce qui s'est passé, Freya ou d'autres. En réalité, le monde des anciens Scandinaves est rempli non seulement de trolls, mais de dis, c'est-à-dire des personnages qui sont soit votre double, soit qui vous protègent, soit qui décident de votre destin, on pense aux trois normes et aux normes personnelles, soit aux Landvetir, c'est-à-dire les esprits de la Terre, soit encore les revenants. Il y a plein d'histoires de revenants. Et une bonne partie d'ailleurs de la littérature anglo-saxonne du 19e sur les revenants est inspirée des histoires de Draugr, c'est-à-dire les revenants. Et dernier point, ce qui m'intéressait, c'est le lien avec notre littérature. Vous avez peut-être tous vu Macbeth. Et il y a trois horribles bonnes femmes, les sœurs fatidiques. Bon, ben les sœurs fatidiques, ce sont les trois normes. François-René de Chateaubriand, qu'on nous présente toujours comme un grand classique français, très juste, reprend quasiment mot pour mot un des textes de la mythologie nordique avec l'histoire de, on en a parlé tout à l'heure, Ragnar Lodbrok, Ragnar au Brévelu. Et si vous lisez un jour dans Les Martyrs de Chateaubriand, nous avons combattu avec l'épée, puis ça se termine, en riant, je mourrai. C'est exactement ce qu'on lit dans la Krakumal, c'est-à-dire l'histoire de Ragnar Lodbrok. Il se jette dans la fosse au serpent et dit « J'irai boire de la bière avec les dix et en mourant, je rirai. » Donc François Chateaubriand, il a été reprendre tout ça. Et comme je suis grand fanat de littérature classique, je me suis dit « Dans un petit bonhomme, on n'a rien inventé, cette musicalité me plaît. » Cette poétique me plaît. À partir de ce moment-là, c'est devenu une passion. Et comme Manuel, peut-être aussi comme notre ami Dugnac, j'aime bien plaisanter, raconter des histoires qui sortent un peu du cadre. Parce que contrairement à ce qu'on croit, les Vikings avaient un humour à froid, sans faire de jeu de mots. Ils avaient vraiment un humour à froid. Il y a une phrase dont je me souviens, puis je m'arrête là. Momentanément en tout cas, qui m'a beaucoup fait rire. Il y a un Jarl qui dit à un jeune qui va partir, il dit « Si tu as une longue langue, munis-toi d'une longue épée. » Et c'est comme ça, tout le temps. Ou bien, tout à l'heure, tu étais seul à m'embêter. Maintenant, coupé en deux, tu es plusieurs. J'adore ça, voilà.
Jean-Claude ?
Ça, c'est une réflexion que mon troll aurait pu faire. C'est vrai que le côté coupé en morceaux, ok, je vais vous prendre le problème séparément, c'est sûr. Oui. Mais mon troll a tendance à effectivement, il le fait d'ailleurs curieusement dans le troisième tome là, que je suis en train d'écrire, où il dit quand j'ai un gros problème, je le transforme en problème plus petit que je peux gérer séparément. Et il se tourne vers le personnage en disant toi, justement, tu es un gros problème, est-ce que tu veux que je te règle?
Voilà.
Ça peut se régler de cette façon-là. Et je ne savais pas que c'était inspiré. Pour moi, c'était plus dans les sagas islandaises, tu vois, que j'avais ce genre de truc. Mais...
Alors, un tout petit mot, parce que je m'en voudrais prendre du temps. Oui, il y en a qui rient déjà. Ce n'est guère charitable, mais la charité n'était pas dans les mœurs vikings, donc je peux y aller. En fait, les grands passeurs d'histoire, ce sont les sagas islandaises.
Il y a un magnifique recueil de Pléiade sur les sagas islandaises que je vous recommence. Qui est vraiment passionnant. Elles ne sont pas toutes loin de là, évidemment, mais il y en a quelques-unes qui sont parmi les bonnes. Et puis il y a plein d'épisodes dont on s'aperçoit qu'ils ont été réutilisés dans des tas d'histoires, en fait, on les voit dans les films. La fille à qui on dit il faut que tu viennes te présenter ni nu, ni habillée, etc., oui. Et qui porte un filet, par exemple, un filet de pêcheur, ce genre de choses. Oui. Et tout ça, on le voit dans un certain nombre de trucs, ça intervient dans des tas de légendes. Hein. Et c'est descendu parce qu'on a tendance à l'oublier aussi. Il y a eu un royaume viking, un royaume nordique, jusqu'en Sicile, jusqu'à des coins comme ça. Et on a tendance à les limiter dans les zones brumeuses, etc. Ben, tout, ils sont allés à plein d'endroits. On en a trouvé au Brésil, on en a trouvé à des coins comme ça. Et donc, on a tendance à oublier qu'il y a eu du ramassis d'informations de tout un tas d'endroits ramenés à cet endroit-là. Parce que les Vikings ramenaient des choses. C'était ça qui était extraordinaire. Ils n'allaient pas se contenter d'aller piller. Ils ramenaient aussi des histoires, des légendes, des façons de faire et d'une certaine façon, une centralisation d'une certaine connaissance. Mais une connaissance qui était racontée à leur façon.
Je plus vois ce que dit Jean-Claude. Et en plus, ce que peut-être pas grand monde ne sait, c'est que les Vikings ont fondé pléthore de villes en Russie. Alors, il y avait deux sortes de Vikings, en gros, pour schématiser. Il y a les Vikings de l'Ouest, plutôt donc la France, l'Angleterre, le Vinland, l'Islande, le Groenland, le Vinland qui est donc la Terre-Neuve au Canada, où apparemment Éric le Rouge a été. Et il y a les Vikings de l'Est, ce qu'on appelait les Varegs. Alors, par rapport au cliché, les Vikings assoiffés de sang, de viol et de pillage, c'était plutôt les Vikings de l'Ouest, dans l'imagerie hollywoodienne ou autre, ou Astérix aussi un petit peu. Hein. Tandis que les Varegs, eux, leur but premier, c'était vraiment le commerce. C'était des commerçants. Donc, ils ont installé des comptoirs en Europe de l'Est, en Russie. C'est même eux qui sont descendus jusqu'à Constantinople. D'ailleurs, à ce moment-là, la garde rapprochée du Basile, ce n'était que des Varegs, donc des grands géants blonds avec des épées monumentales. Voilà.
Harald a été un des Varegs de la cour de Constantinople.
Voilà. Donc ils étaient partout. C'était aussi des mercenaires. Donc c'était des marchands, c'était des commerçants, c'était des guerriers, c'était des découvreurs, des navigateurs et des mercenaires. Je l'ai dit, je crois, au début. Voilà. Donc, mais comme dans beaucoup d'autres civilisations, où on, en fait, il y a que nous aujourd'hui qui avons la capacité à figer les civilisations sur deux, trois points, en oubliant toute complexité. On a tendance à faire ça. Peut-être que ça nous rassure, je ne sais pas.
J'ai l'impression que c'est une tendance générale sur tous les points. C'est-à-dire qu'on a une grosse tendance à tout simplifier, parce que c'est beaucoup plus facile, effectivement, de tout mettre dans des petites cases, de mettre les gens sont noirs ou blancs. C'est une grosse tendance actuelle. Et c'est dommage parce que ça appauvrit justement la diversité de notre monde actuel, mais aussi la vision qu'on a du passé. Réduire un peuple, parce que bon, c'est ça. C'est,
à des
c'est
clichés.
À des clichés, oui. C'est... qu'est-ce qu'on appelle ça, le racisme?
Oui, c'est la base de la connerie universelle. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais je voudrais rebondir là-dessus. J'espère ne vexer personne. Hein. Je ne veux pas entamer une guerre religieuse ici. Je pars dans une perspective historique. Pour les anciens Scandinaves, tels qu'ils ont été décrits par Manuel, le monde, les mondes étaient un. On ne disait pas, tiens, à gauche, Pitou, tu as la nature, là, tu as les humains. Tout vivait. Les montagnes vivaient. On parle souvent de montagnes qui ont des racines. Les oiseaux, les animaux, plus toute une série d'autres êtres vivaient. Et on formait une symbiose. Et au lieu de cette sottise actuelle qui consiste à dire « L'homme est le roi du monde », on disait « L'homme fait partie du monde ». Et ça, c'est une très grosse différence. La deuxième, on ne faisait pas la différence entre le rêve et la réalité. Les rêves étaient porteurs, comme chez les Celtes d'ailleurs, de vision. La troisième chose qu'on ne faisait pas, c'est qu'on ne divisait pas le monde en couleurs. Ça, c'est vraiment une chose que je tiens à dire, parce que de temps à autre, je suis l'objet de sollicitudes appuyées, de boneheads, c'est-à-dire les skinheads extrême droite qui viennent me voir, aimables, pour me parler. Je tiens à dire une chose, c'est que partout où les Vikings se sont installés, ils se sont totalement, non pas assimilés, ils se sont intégrés. Ils n'ont pas imposé leurs croyances, ils s'en fichaient complètement. Leur seul objectif, c'était ce qu'ils disaient quelquefois l'an, quand ils levaient leur anap, c'était « à la prospérité et à la paix ». Voilà, donc « Til ars och frida ». Et donc, les populations qui allaient détruire les autres, ou ce que j'entends parfois, les éradicateurs, c'est de la foutaise. Alors, la dernière chose, dernier point, historiquement, oui, je sais, c'est parfois un peu net, mais je préfère le dire, parce que j'ai entendu tellement de trucs.
La différence entre les Varegs et les Vikings, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans le même substrat. Quand les Vikings sont arrivés, la chrétienté a estimé que c'était des barbares païens et que par voie de conséquence, ils représentaient le mal. Jusqu'en 911, Rolf, le futur duc de Normandie, est considéré comme un barbare. Dès lors qu'il est plongé dans l'eau lustrale, il devient un ange, un très bon organisateur. Il instaure la paix de la charrue. Donc ça, c'est la chrétienté de l'Ouest. Mais de l'autre côté, à l'Est, les Russes, c'est-à-dire les Rousses, les Roux, c'est une des possibilités en tous les cas, c'est-à-dire les Varegs, sont arrivés là à la demande des Slaves, qui leur ont dit, on ne fait rien qu'à se battre, est-ce que vous ne voulez pas nous organiser et mettre de l'ordre là-dedans? Et là-dessus, Rurik, Sienus et Trevor se ramènent et ils mettent un fichu ordre puisqu'ils créent, ils recréent Novgorod, c'est-à-dire Holmgard. Voilà. Donc la perspective historique est totalement différente. Et donc là, ben, les Vikings de l'Est n'ont pas eu à s'imposer vraiment par les armes puisqu'on les demandait.
Je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter ou est-ce qu'on passe aux questions du public? Il y a des gens qui... Quelques questions?
Peut-être revenir un petit peu à notre dimension fantastique de l'utilisation de la civilisation viking. Avant tout, c'est vraiment, ça naît du... Alors, peut-être un petit peu moins pour Jean-Claude, puisque avec son troll qu'on trouve un peu partout et qu'il a ramené dans ses bagages. Mais c'est avant tout une passion pour une civilisation qui est très méconnue et qui est surtout exploitée de manière très fausse, tout simplement. Hein. Malgré les efforts qu'on peut remarquer dans certaines productions actuelles, que ce soit littéraires, cinématographes ou télévisuelles. Donc c'est... On est... Alors peut-être un peu plus Pierre, hein, parce qu'il est plus vieux. Donc il a peut-être plus envie de rétablir la réalité historique en particulier. Moi aussi, c'est vrai, mais toujours dans un esprit de divertir, de populariser et de, pas d'informer, mais de présenter un petit peu le fruit de nos réflexions à travers d'histoires agréables. C'est ça surtout. Hein. Et puis en histoire, là, on a la même chose de toute façon. Donc voilà, Jean-Claude aussi un petit peu, hein, c'est, oui, moi, avec peut-être moins d'ambition.
Moi d'abord, soyons clairs, moi j'ai un troll. C'est une chose tout à fait différente. Le troll, ce troll-là, qui est un troll de pierre, donc qui est littéralement l'émanation de la montagne. Tu parlais de la montagne avec des racines. Un troll, ça naît d'une éruption, ça naît d'une avalanche. Enfin, c'est, comme disaient les glaciers, c'est un cadeau de ma moraine. Quoi. Enfin, c'est vraiment ce côté-là. Et donc, il a ce côté rugueux, le côté pied vraiment enfoncé dans la terre, le côté rapport avec la terre au sens originel du terme, la roche, vraiment. Dans lequel il a vraiment cette vision de pourquoi se compliquer la vie et pourquoi faut-il à tout moment essayer de faire des choses totalement contre nature. Il y a dans la scène que j'ai écrite hier, donc ici, il est face à un moment donné un fort fait par les chevaliers, type chevalier de la table ronde, qui ont fait un petit fort d'entraînement à un endroit, et ils ont évidemment, comme c'est un fort, ils ont bâti un pont-levis. Bon, comme ils n'avaient pas tout le budget, ils ont bâti le pont-levis, mais ils ont oublié, enfin, ils n'avaient pas le budget pour creuser les douves. Donc, ils ont bâti le pont-levis, donc le pont-levis il est posé sur l'herbe. Et lui, en tant que troll, il réfléchit en disant, enfants, ils ne sont pas cons parce qu'ils n'avaient pas le budget. Mais maintenant qu'il y a le pont-levis, on sent bien la nécessité de la douve, donc ils vont trouver le budget pour construire la douve. Tandis que s'ils avaient creusé la douve, mais qu'ils n'avaient plus le budget pour le pont-levis, ben, ils se seraient retrouvés comme des cons avec un truc incapable d'être franchi. Alors, soit ils étaient dedans, ils ne pouvaient pas en sortir, soit ils étaient dehors, ils ne pouvaient pas y rentrer. Donc, d'une certaine façon, ils ont pris la bonne décision. Et il dit, les hommes, c'est ça. Ça s'est organisé. Seul truc, c'est qu'ils ne se demandent jamais pour quelles raisons ils font ce qu'ils sont en train de faire. Et lui, le troll, c'est le personnage qui rappelle à tout moment qu'il faut se poser la question, disons, est-ce qu'on ne pourrait pas arrêter tout ça et aller boire un coup? C'est à peu près tout ce qu'il est capable de faire, mais il joue un rôle extrêmement important dans cette société-là, qui est une société complexe, qui est très proche de la société industrielle qu'on connaît. Il ramène un certain nombre de valeurs en disant d'abord, tout est lié, ce que tu disais, et puis nous devons nous interroger sur cette espèce de complexification qu'on entraîne dans le monde et qui n'a peut-être pas l'intérêt qu'on croit qu'elle a. Ou alors on finit avec des ponts-levis posés sur l'herbe, et puis lui, évidemment, il est en pierre, donc il monte sur le pont-levis, donc les mecs essayent de remonter le pont-levis pour l'empêcher de rentrer, mais il est lourd. Et donc, on ne peut pas. Donc, il y a les chaînes qui craquent un peu, donc, comme certaines chaînes. Vous voyez, on a l'illustration, on en dirait. Et il est là, et puis il réfléchit, lui, il passe le truc. Donc, on le laisse rentrer. Et puis, il gratte la tête, il dit quand même, c'est vrai que ma femme a raison, je devrais maigrir. Bon, et ben, on est vraiment dans cette situation-là, quoi. Et c'est sa fonction. Sa fonction, c'est de poser ces questions totalement stupides et inutiles. Et qui, de toute façon, c'est trop tard. Le problème, la société est devenue trop complexe pour que ces questions aient du sens. Mais c'est bien de temps en temps de se dire, il y avait une époque où ces questions-là voulaient dire quelque chose. Enfin, c'est à ça qui sert. Et moi, elle me permet de dire des conneries. Si j'avais su, il y a 30 ans, quand je commence, 30, 40 ans, quand je commençais ma carrière littéraire, que je pouvais gagner ma vie en tant qu'auteur en racontant des conneries, mais je l'aurais fait, mais tout de suite. Sauf que d'abord, je n'imaginais pas, parce que c'est vraiment un domaine sur lequel je suis doué. Je veux dire, bon, je suis né con, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai atteint un niveau de stupidité qui relève du professionnalisme à ce stade-là. Si j'avais fait autant de temps à faire du vélo qu'à dire des conneries, je serais en train de faire le Tour de France, quoi. Donc, je me dis, si j'avais su, mais j'aurais commencé, mais tout de suite, j'aurais fait une carrière là-dessus. En fait, j'ai écrit des trucs sérieux, et puis, je suis arrivé sur ces personnages-là, parce que mon éditeur m'a dit, les histoires que tu racontes là-dessus, ça plaît à nos lecteurs, fais-en des romans. Je me suis dit, mais ils sont cons, ben, la réponse, c'est oui. Mais moi aussi, ça tombe bien, donc on peut se parler.
Toujours pas de questions. Ah si, j'ai une question là-bas.
Moi, la mythologie nordique, je la connais très très mal. Est-ce que c'est organisé un peu comme la mythologie gréco-romaine, par exemple, avec un dieu qui est en haut, les autres qui sont en dessous, qui lui reportent, etc. Ça marche comment?
On se partage la chose.
Vas-y, commence.
On va se partager la chose. Voilà.
Alors, il y a deux façons de considérer la mythologie nordique, la verticale ou l'horizontale. La verticale, c'est celle de Snorri Sturluson, qui est un clerc chrétien du XIIIe siècle, un Islandais. Lui considère que au-dessus, il y a Asgard, les dieux As et Vanaheim, et qu'en dessous, tout ça le long de l'arbre cosmique Yggdrasil, il y aurait Midgard, et puis que vers le nord, on aurait le Niflheim, le royaume des glaces, et puis que vers le sud, bon, ça c'est une vision. L'autre vision, qui est de plus en plus partagée par les scientifiques actuels, consiste, pour les lecteurs de science-fiction, ça ne va pas être difficile de voir où notre ami Pratchett a été chercher son idée, c'est un disque-monde, avec au milieu Yggdrasil, et puis Midgard, et puis etc. Bon voilà, je vais laisser la parole à mon petit camarade, parce que je sais qu'il a énormément de choses à dire aussi.
Oui, oui, en fait... Dans la vision ronde de la mythologie scandinave, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Déjà, il n'y a pas vraiment de dieu. Voilà. Déjà, il faut commencer par là, il n'y a pas de dieu. Ce ne sont pas des dieux, ce sont plutôt des surhommes. En cela, Marvel s'est pas trop trompé en utilisant Thor ou Loki dans ses films. Ce sont des espèces d'êtres dotés d'un certain pouvoir qu'on peut croiser au détour d'une forêt, au détour d'un borg, qui interagissent, alors, mais qui n'interagissent pas à la manière des Grecs ou des Romains, en disant « je suis tout puissant et vous ne pouvez rien faire ». Bien au contraire, puisqu'on a vu à plusieurs reprises des dieux se faire fourvoyer eux-mêmes par de simples bonhommes. Donc voilà, donc pas de hiérarchie, pas véritablement de dieu. En fait, de toute façon, la notion de divinité, c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard, hein, qui a été plaqué en particulier par le christianisme. Hein. Donc, même dans d'autres civilisations, c'était pas vraiment des dieux non plus. Chez les Celtes, c'était un peu pareil aussi. Hein. C'était un peu des bonhommes et des bonnes femmes qui étaient juste un petit peu plus forts que les autres, un petit peu plus malins surtout peut-être. Donc voilà, mais on retrouve quand même des thématiques qui sont pleines d'enseignements. En fait, les mythologies, c'est plutôt ça. Autant les religions monothéistes sont des diktats, sont des asservissements, c'est une espèce de colonialisme de l'esprit pour asservir donc les individus. Enfin, c'est ma vision, hein, on va pas se fâcher là, mais c'est ma vision à moi. Hein. Autant les mythologies, ce sont simplement, c'est une compilation de sagesse, de bon sens, d'enseignement, pour aider les gens, vous, moi, à essayer de mieux vivre, de mieux interagir entre nous, de mieux
non pas utiliser notre environnement, mais se fondre dedans pour aller au mieux ensemble. Voilà, c'est surtout ça, les mythologies, et en particulier la mythologie nordique. Donc, encore une fois, pas de dieu, bon, on parle toujours d'Odin, mais enfin, quand on lit un petit peu, on s'aperçoit que finalement, Thor était peut-être un petit peu plus fort. Donc, bon, donc Odin, c'est le patron, mais il est moins fort. Donc, bon, alors que chez les Grecs, à part Zeus, il n'y a personne, quoi. Voilà, c'est bon. non, mais voilà, c'est ça. Donc,
est-ce que ça rappelle à ce moment-là une forme de panthéisme africain où effectivement on a des émanations de tout un tas de trucs et on a effectivement une espèce de famille turbulente avec des anciens, des grands, mais il n'y a pas la notion de hiérarchie, il y a plus la notion de tribu.
Oui.
Il y a, les dieux constituent une espèce de tribalisation qui est un reflet de la tribalisation humaine.
Exactement. Ouais. Woden, c'est-à-dire Odin pour les germaniques. Parce qu'en fait, Odin et Woden, c'est la même racine, est vraisemblablement un chef au départ. Et c'est après qu'il a pris une notion plus, j'allais dire, plus divine dans notre sens. Il y a aussi une autre, tu parlais d'Afrique, les puissances de la terre, de la mer, de l'air sont présentes, omniprésentes. Prenons le cas des géants. Bon, c'est pas des grands mecs avec des bottes de 7 lieues qui ressemblent à des ordres et qui font « je vais manger tous les petits enfants », etc. Non. Les géants, les Jotnars, les Turs, sont en fait des émanations de la terre, de toutes les puissances que les humains ne parviennent pas à maîtriser. Je vais vous donner un simple exemple historique. Au XIXe siècle, il y a eu une éruption en Islande. Et il y a eu pendant 3 ans un mini-hiver. Le ciel était gris. Le sol tremblait. Le feu sortait du volcan. Et les hommes et les humains avaient froid. C'est exactement ça qu'on retrouve dans le Ragnarök. C'est les 3 premières années du Ragnarök. Donc, en fait, ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une civilisation chamanique, c'est ça, chamanique, on en appelle aux forces de la nature, plutôt que d'en appeler aux forces du bien et du mal. Alors vous allez me dire, ils n'avaient aucune morale, ils viennent de l'aborder, pas du tout. Ils avaient, par exemple, le Havamal dans l'Édit d'Odin. Le Havamal est une série de plus de 100 expressions de la morale, telle que nous on l'entend. Par exemple, promets peu, mais tiens exactement. Ou bien, ne viens pas à la table de l'hôte en prenant la parole en permanence. C'est pour ça que je vais essayer de faire court. Ou bien encore, quand tu parles, mesure le poids de ta langue. Il y a comme ça toute une série de choses. Donc, c'est une sagesse.
Même jusqu'aux condamnations. La peine capitale n'existait pas chez les Vikings. C'était le bannissement, la peine la plus forte. Alors, il peut y avoir des explications du fait d'une certaine surpopulation, de terres difficiles à cultiver, donc il faut aller s'installer autre part. Mais quand quelqu'un commettait un crime, l'ensemble de la population siégeait, il en sortait généralement, si c'était un gros crime, un bannissement. Ça veut dire, et un bannissement, c'est tu prends... Tu prends toute ta famille, tu prends ton clan et tu t'arraches. C'est pas toi tout seul. C'est comme ça qu'Éric le Rouge a été en Islande. Et après, au Groenland et au Vinland. Donc voilà. Donc déjà, un respect de la vie humaine, en tout cas entre eux. Après, quand on est en vacances, on peut faire quelques excès. C'est ce qu'ils faisaient sur les côtes françaises et les côtes anglaises. Mais bon, voilà. Après, on le fait tous. Hein. Quand on va à l'étranger en vacances, on fout le bordel aussi. Hein. Donc c'était juste un petit peu plus extrême. Mais c'est ça. Aussi donc un très grand respect pour la vie, pour leur, la vie de leur propre, de la vie en règle générale, quand même.
Oui, non, c'est ce qui est intéressant dans les croyances, quand on commence à se poser des questions, c'est que, entre guillemets, il y a eu des croyances qui étaient avec une vocation systémique, je m'excuse, j'ai employé des termes un peu compliqués, ça a été par exemple, tout ce qui a été les monothéismes ou les religions du livre, qui viennent d'une époque où s'est mise en place la notion de roi. Gouvernement. D'accord ? C'est-à-dire une structure hiérarchisée avec un gouvernement censé piloter les choses. À ce moment-là, on fabrique une religion qui ressemble à ça, qui permet de dire qu'il y a une hiérarchie fonctionnelle, avec quelqu'un qui dirige tout ça, parce que c'est bien d'avoir une seule personne qui dirige, et à ce moment-là, vous reflétez ça dans l'image du roi en disant le roi étant l'émanation de Dieu, ce qui a été le cas d'à peu près tous les rois dans à peu près toutes les régions du monde qui ont combattu une religion, donc on a une structure dans laquelle il est bien qu'il y ait une force supérieure qui décide pour tout le reste, et donc que toutes les décisions soient prises en cascade. D'accord ? Ça, c'est un certain type d'organisation. C'est un certain type d'organisation qui correspond physiquement au fait que vous avez, par exemple, un territoire riche, que vous avez un territoire dans lequel un certain type de commerce est intéressant, dans lequel le territoire fournit suffisamment de nourriture pour permettre aux gens de vivre. C'est l'Égypte, c'est la Syrie, c'est un certain nombre de choses comme ça. Et puis, vous avez des situations dans lesquelles le Centrafrique, dans lequel les Vikings aussi, dans lequel vous n'avez pas nécessairement suffisamment de quoi manger tout autour pour assurer une espèce de pérennité. Par contre, vous avez un ensemble de phénomènes qui, chacun indépendamment, contribuent soit à vous enrichir, soit à vous emmerder. Et à ce moment-là, vous gérez le fait qu'il y a une espèce de population d'événements, chacun incarné sous une espèce de force, qui se gère comme un système, mais comme un système global sans hiérarchie, un petit peu anarchique, mais en même temps avec lequel on interagit en permanence. Donc vous n'avez pas un univers ordonné, vous avez un univers qui est ce qu'il est, et dans lequel vous, être humain, ben vous exprimez, sachant qu'en face de vous, vous avez des forces qui vont intervenir avec vous. Voilà. Et ben, cette vision du monde, elle est très très différenciée suivant les régions et suivant le type de rapport à la vie quotidienne que vous avez. Et construire une structure hiérarchique de livres avec, il y a un grand patron qui va diriger tout ça, et puis au passage, il y a un roi avec des conseillers, avec des gens, avec des trucs, avec des lois, etc. C'est une façon de voir le monde. C'est la façon qui est devenue actuellement majoritaire face à une époque où on était dans une situation totalement tribale, dans un univers relativement mouvant, où il était parfaitement loisible d'aller explorer, d'aller voir et d'aller trimballer avec soi juste une envie de vivre et une envie éventuellement de commercer, d'échanger, etc. Une éthique qui peut être une éthique personnelle, mais qui n'était pas une structure organisationnelle. Et quand on étudie les mathématiques, quand on étudie ce qu'on appelle la systémique, c'est-à-dire la manière dont les systèmes marchent, on s'aperçoit que les deux systèmes sont aussi efficaces l'un que l'autre. Mais par contre, ils ne peuvent pas coexister. Si vous en avez un, ben vous n'aurez pas les autres. Et le système, je dirais, hégémonique, majoritaire, les religions du livre, avec cette espèce de structure de royauté en renaissance, est devenu le système majoritaire, pour de bêtes raisons économiques ou historiques, on ne sait pas très bien, mais il a petit à petit repoussé tout ça vers des zones de limbe extrêmement limitées. Et même la vision, je pense qu'on a des vikings, j'ai dit probablement des conneries, mais cette vision-là, elle a été passée à ce filtre majoritaire structurel, donc on se pose la question, quelle était la hiérarchie des dieux? Et la réponse, c'est on n'était pas du tout dans ce système-là. La question n'a pas de sens dans ce système-là. Est-ce que j'ai dit des conneries?
Non.
Systématiquement, c'est comme ça que ça s'est fait. Quand on étudie un peu l'aspect systémique des choses, c'est comme ça qu'on le voit apparaître.
Comme on n'est pas dans un système hiérarchique, je ne me permettrai pas de dire si tu as dit des conneries ou pas. Mais je partage totalement. Voilà.
J'ai vu une autre main se lever là-bas. Il faudra peut-être se lever, par exemple, pour poser la question.
Voilà, on va tirer le fil, mais ça va être compliqué.
Oui. Ce que je voulais dire, c'est que est-ce qu'il y avait, il y a un mythe de la fin du monde, le Ragnarok, est-ce qu'il y a des mythes de la création?
Oui.
Comment ça se passe?
C'est le Big Bang. Très simplement, c'est le Big Bang. Je vais essayer de résumer ça et je serai corrigé par mon petit camarade d'ici de gauche si je dis des bêtises. Au départ, il y a deux principes et un vide énorme qu'on appelle le Ginnungagap, le vide intersidéral. Il y a deux principes, le principe de la chaleur, qui est représenté par le feu de Surt, qui va devenir le Muspelheim, le lieu du feu. Et puis de l'autre côté, il y a le Niflheim. Un jour, je résume de chez résumé, hein. Il y a confluence des deux. Il y a une sorte d'explosion cosmique qui se fait et la vie surgit de là. Ensuite, je passe les étapes, sort de là un géant. Ce géant sera assassiné par ses petits-enfants. Et de son corps, on fera la création. Son sang devient les rivières, ses cheveux deviennent les forêts, ses eaux deviennent les montagnes. Et ainsi surgit la vie, mais aussi avec le mythe classique qu'on retrouve dans toutes les civilisations anciennes, de l'assassinat de l'ancien pour que les plus jeunes puissent vivre.
et je sens que tu as des tas de choses à dire.
Non, 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 tu as très bien résumé le, la naissance chez les Vikings. Oui, effectivement, c'est un Big Bang, c'est un Big Bang qui donne naissance à un mythe qu'on retrouve un peu partout. Ouais. Un peu partout. Qu'on retrouve même, justement, ce qu'on disait tout à l'heure sur des mythologies qui sont horizontales, on retrouve aussi ce mythe du Big Bang. Contrairement, alors que dans les religions du livre, on ne le trouve pas. Il est là depuis toujours. Donc, on m'explique comment on y allait. D'ailleurs. Mais voilà, il n'y a pas ce mythe du Big Bang, du grand pétard. Quoi. Et depuis, les scientifiques nous ont suivis là-dessus, puisqu'ils nous ont piqué le mythe du Big Bang pour expliquer le truc qu'ils ne comprennent pas. C'est un peu ça, Jean-Claude, non?
En gros, oui, parce que si les scientifiques avaient de l'imagination, ça saurait, je sais, j'en sais rien. Mais d'une certaine façon, il est certain que de temps en temps, on a des espèces de poussées de mysticisme chez certains scientifiques qui disent, mais dans le fond, nous, on est en train de travailler sur les 23 premiers milliardièmes de seconde du Big Bang, etc. Mais dans le fond, on est très très proche de la révélation du Bouddha ou de ce que... Et à ce moment-là, les gens disent, mais dans le fond, tout est dans tout et réciproquement. Mais ok, sauf que à un moment donné, cette explication n'est qu'une des explications possibles. Il y a aussi le fait que nous, êtres humains, nous aimons créer des structures. Ce que je disais l'autre fois sur la structure hiérarchique ou la structure, la structure tribale évolutive, c'est juste une manière pour l'être humain de dire j'ai des tas de choses autour de moi, je reçois de l'information, je structure cette information. Je fais des schémas, je fais des organisations, je fais des plans. Quelquefois, c'est facile pour nous de faire une organisation structurée, un arbre avec le début, la fin, des choses comme ça. Vous avez des gens qui font aussi des organisations tridimensionnelles, fluctuantes, etc. Et vous avez des scientifiques qui ont fait des théories de Big Bang parce que c'est une structure organisationnelle avec on part d'un point puis on descend sur truc. Et puis vous en avez d'autres qui font des structures très fluidiques avec des choses comme ça. Et c'est pas du Big Bang, c'est autre chose. C'est du multivers en évolution. Et puis vous avez la version pour revenir à de la guitare, la version de quelqu'un qui s'appelle Italo Calvino, qui vous explique qu'en fait, au début, il y avait le Big Bang, on était tous ensemble. Donc, monsieur machin couchait avec madame truc, mais c'est pas grave, parce que comme on était tous ensemble dans le même endroit, nous aussi, on couchait avec madame truc, donc ça allait très bien. Et puis, qu'à un moment donné, madame truc a dit, si j'avais un peu de place, vous verrez les lasagnes que j'arrive à vous faire. Et à ce moment-là, il a fallu la Toscane, il a fallu les champs de blé pour faire les pâtes, il a fallu plus loin l'endroit où poussaient les tomates, et encore plus loin l'endroit où on faisait les poils. Et c'est comme ça que le monde est né. C'est parce qu'à un moment donné, tous les gens ensemble, un peu serrés, se sont dit, ce serait génial si on pouvait se faire des lasagnes. Et ça, c'est ma plus belle vision du monde.
Une autre question? Oui.
Tout le monde a certainement regardé ici la série du King.
Oh oui.
Alors j'ai une question, ça peut être en quelque sorte détaillé par rapport à la version édulcorée que vous donnez et aux images qu'on a pu voir dans cette série, où on voit des sacrifices humains, où on voit des supplices atroces. Et j'aimerais votre avis sur la question, ça va se donner à donner à ces images.
Je peux me permettre.
Oui, vas-y.
Je ne ferai aucun commentaire sur Viking, sauf qu'il y a un personnage qui est très bien fait, Rollon. Je dis qu'il est très bien fait parce qu'il ressemble au mien d'une manière extraordinaire 7 ans après sa création. Mais c'est sûrement un hasard du Big Bang dans un multivers. Non, pour parler plus sérieusement, oui, ces supplices existaient. Le supplice dont on parle là, c'est le supplice de l'aigle. Donc on trace derrière une ouverture et on retire les poumons. Ça a existé. Il y a eu des sacrifices humains. Est-ce que pour autant, parce que c'est ça aussi qu'il y a derrière cette question, on se dit, oh, c'était des barbares cruels. Est-ce que les religions qui sont venues après étaient des religions tendres? Est-ce que, je vais te poser des questions, est-ce que, par exemple, c'est une de mes marottes, vous m'en excuserez, Charlemagne, le chef des Francs, vous savez, le gars qui avait soi-disant une barbe fleurie, s'il avait appris ça, vous étiez mort. Est-ce qu'il s'est conduit correctement? Ben non, il a littéralement fait de l'épuration ethnique, jetant 1 million de Saxons au-delà de l'Escaut. Je crois qu'il y a un problème dans Viking. Je vais vous le dire très franchement. D'abord, il y a l'esthétique qui, moi, me fait rire. on dira un petit peu de la néo-kaira punk. Vous voyez, il manque juste les chiens des punks. Jamais on les voit avec des casques. Jamais on ne les voit quand il s'agit de sacrifices. Expliquer ce que signifie le sacrifice au dis, le disable, l'autre. Jamais. D'autre part, la mythologie arrive là-dedans, racontée par une espèce de personnage bizarroïdo-plasticogène sans yeux. Et celui-là, quand il parle, on sait qu'il va nous raconter la mythologie. Bon. C'est pas comme ça que ça se passe. La mythologie fait partie intégrante de la vie de ces gens à l'époque. Intégrante. Et Jean-Claude a parlé, mais tellement à juste titre, des Africains, mais des subsahariens, plus exactement.
Les subsahariens, c'est ça.
Exactement. Ou aussi des aborigènes. Une des manières d'obtenir, vous allez voir le lien que je vais faire, une des manières d'obtenir l'illumination, au sens où nous l'entendons, mais la vision, c'est boire. Boire quoi ? De l'hydromel. C'est-à-dire du miel mélangé à de la salive. Vous avez ça chez les anciens égyptiens, vous avez ça chez les anciens nordiques, et vous l'avez aussi chez les aborigènes. Et chez les subsahariens, on trouve ça aussi. La bière, au départ, c'est de la salive fermentée. Pourquoi je vous dis ça ? C'est que je trouve que Viking a tendance à limiter le rôle des Scandinaves de l'époque dans un jeu de rôle où ils seraient finalement les barbares halogènes, pour utiliser un terme abominable, qui viennent se déverser partout. Et dernier point, il y a des erreurs historiques épouvantables dans Viking. Je vais prendre deux exemples. Roland monte sur les murs de Paris, et comme dans une histoire que je connais bien pour l'avoir écrite, il tombe. Très bien. Et puis il survit. Et puis après, tout à coup, sur un mur, il rencontre une femme. Oh, qu'elle est belle, c'est Gisela, la fille du roi. De quel roi on parle ? On parle d'un roi, le même roi que celui qui a accueilli les Vikings en 874, lors de la première attaque sur Paris avec les Vikings de la Seine. Et c'est le même roi en 911. C'est exactement une erreur, mais colossale. C'est comme si vous me parliez de Napoléon qui jouerait le rôle de Clémenceau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la série Viking, personnellement, vous l'avez bien compris, je ne lui porte pas un grand amour, sauf que elle a permis que chacun et chacune s'intéresse. Finalement, la partie, selon moi, hein, c'est un avis strictement personnel, la plus juste, c'est le premier épisode. Après, ça commence à devenir un méli-mélo. Vous avez vu les machines de siège ? Ces espèces de machins là, qui tournent et qui écrasent tout le monde, ça n'existait pas à cette époque-là. Tout ce qu'on avait, c'était des galeries d'assaut. Et voilà, vous avez mon avis sur Vicky. Si vous voulez voir une série qui ressemble à quelque chose, regardez plutôt The Last Kingdom, le dernier royaume. Là, c'est vraiment historique et on est dans la mentalité et des Saxons et des Vikings sans jugement.
Je peux me permettre, par rapport justement au sacrifice, par rapport à l'époque à laquelle ça se passe, vous saviez ce qu'on faisait subir aux gens qui étaient soupçonnés de n'importe quoi, de toute façon, puisque la torture était quand même très, très classiquement utilisée. Faites une petite recherche sur le type de torture qu'on pouvait infliger, mais c'est absolument abominable. Des choses qui, de nos jours, on ne peut même pas, on ne peut pas imaginer. On se dit vraiment, ils avaient des idées vraiment tordues. Donc, c'est pas, je veux dire que, effectivement, cette torture de l'aigle, c'est assez effrayant. Mais il y a le sacrifice, voilà.
Une ou deux petites précisions. Les histoires de sacrifices chez les Nordiques, malgré tout, ça restait quelque chose d'assez anecdotique. Par là, je ne veux pas dire que la civilisation nordique était une civilisation idéale, comme on a tendance à nous le faire manger pour les Celtes ou les Gaulois. Pas du tout. Ça restait des hommes et des femmes avec leurs propres problèmes et qui, pour beaucoup, avaient tendance à le régler avec un coup d'épée ou un coup de hache, quand même. C'était des mondes difficiles, des mondes durs, où on luttait chaque jour pour sa vie. Mais, malgré tout, dans ces civilisations, et même après, dans la chrétienté, on a toujours trouvé de ces individus, alors, plus éclairés, plus illuminés, je ne sais pas trop, plus futés peut-être, qui ont toujours essayé d'amener leurs camarades ou leurs citoyens à peut-être tendre vers quelque chose de plus juste. Moi, c'est ce que je traduis. En fait, j'ai découvert ça avec les aborigènes, en fait. C'est leur fameux « best of both worlds », ce qui est la base du chamanisme, en fait. C'est qu'on prend le meilleur du rêve et le meilleur de la vie et on essaye d'y tendre pour vivre au mieux. Et c'est pareil, je crois, dans toutes les civilisations, avec ses dérives et ses excès, que ce soit dans les religions du livre ou dans les mythologies. Et les Vikings n'y échappent pas. C'était pas des joyeux plaisantins, hein, comme chez Jean-Claude. Enfin, c'est pas des Vikings, c'est des trolls, c'est pareil. Mais c'était pas des gars gentils, ils étaient pas là pour vous taper dans le dos ou alors pour vous piquer votre bourse. Hein. Non, non, ça restait des gens qui avaient des conceptions de la propriété qui pouvaient paraître un petit peu bizarroïdes pour des gens comme nous qui étions très attachés au foncier. Eux, non, pas du tout. Ça restait, malgré tout, le fameux Strong Hug. Quand ils arrivaient sur nos côtes, c'était pas pour faire du tourisme. Par contre, quand il est arrivé, et c'est arrivé à de nombreuses reprises, que quand des bateaux vikings, des expéditions, trouvaient un coin qui leur plaisait, ils s'installaient pour la plupart, et comme tu disais, ils s'intégraient parfaitement. Alors, ils ne venaient pas foutre ta merde. Hein. Généralement, ils allaient au plus facile. Mais en fait, d'un autre côté, c'était le plus facile, c'est que quand ils arrivaient sur la côte et qu'ils voyaient des espèces de mecs habillés en gonzesses, en train de crier partout, ils se disent, c'est quoi ce truc? On est dans des villages de fous. Ben, le problème, c'est qu'ils rencontraient les moines pour la première fois, et ils se sont dit, mais des gars qui courent dans tous les sens, c'est bon, quoi. On les dépouille et on revient l'année prochaine. C'est tout. Hein, c'était quand même des... Voilà. Et aussi, par rapport... Alors, il y a eu une découverte très importante il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, on a découvert une tombe, je crois que c'était au Danemark, hein, c'est ça, en Suède. On a trouvé une tombe avec un grand guerrier viking, avec tout ce qu'il fallait, tout le Bataclan. Et alors tout de suite, bon voilà, ça a conforté l'histoire du viking, pilleur, violeur, hein, d'accord, ok, pourquoi pas. Dernièrement, il y a eu des tests ADN qui ont montré que ce fameux grand viking, bah, en fait, est une femme. Une femme assez grande, d'ailleurs, entre nous. Alors, ça ne veut pas dire que finalement, maintenant, finalement, alors on s'est trompé, les vikings, les hommes restaient à la maison, et c'était les femmes qui allaient combattre. Il ne faut pas tomber dans l'excès contraire. Il y avait des femmes, beaucoup de femmes, qui participaient aux expéditions, l'arme à la main ou pas, mais il y en avait. Comme chez les Celtes, les femmes n'étaient pas cantonnées à la cuisine ou quoi que ce soit. Comme chez les Gaulois. Dans les cavaleries gauloises, il y avait des femmes, comme des hommes.
Mais attends, si je peux me permettre, c'est bêtement d'un point de vue historique. À partir du moment où vous avez besoin que tout le monde travaille pour nourrir tout le monde, vous ne pouvez pas séparer les femmes des hommes, c'est pas possible. Pas possible parce que sinon tout le monde meurt. C'est aussi simple que ça. Vous savez, quand vous voyez les évolutions de la civilisation, en fait, une façon de le voir qui est très grossière, hein, je m'excuse par avance, je fais du résumé, comme tu dis, mais vous dites, grosso modo, pour nourrir 10 personnes, combien faut-il que de personnes qui bossent? Ben, vous êtes chez les chasseurs cueilleurs néandertaliens 40 000 ans de ça, ben, il faut que pratiquement 9 sur 10 sortent cueillis ou chassés pour nourrir les 10. Donc tout le monde est occupé. Et à ce moment-là, vous ne pouvez même pas dire les hommes et les femmes font des rôles différents. Tout le monde bosse. Puis petit à petit, vous avez des inventions techniques, des progrès, des choses qui font que ben, on peut se contenter de 8 pour nourrir 10. À ce moment-là, tiens, ben, on peut peut-être avoir un peu de temps pour que les femmes accouchent, on se reproduise plus. On peut avoir des gens qui s'occupent de faire du management, des gens qui peuvent être des guerriers. Parce que les guerriers, ça ne va pas cultiver, ça fait du guerrier. Donc, il faut s'en occuper. Puis, vous avez des artisans. On descend à 7, puis à 6. En France, on est à 0,5 actuellement. Il y a 0,5% de la population qui nourrit la population. Donc, on a le temps pour plein d'autres choses. Mais ce n'est qu'à partir du moment où les civilisations sont devenues suffisamment industrielles pour qu'on nourrisse tout le monde avec 40% des gens qui travaillent, pour qu'on dise, ben, à ce moment-là, on peut avoir une partie de la population qui vit différemment des autres et qui n'est pas amené à faire la même chose. Et à ce moment-là, soit ça a été le, je dirais, la noblesse qui s'est retrouvée à l'écart, qui, entre guillemets, servait à rien, produisait rien, soit on a dit, ben, on met les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, mais on ne peut arriver à cette situation-là que lorsque on est arrivé dans un système d'organisation sociétale suffisamment complexe et suffisamment efficace pour que tout le monde ne soit pas obligé de bosser. Parce que je vous garantis que le paysan du 5e siècle après Jésus-Christ, ben, c'était une paysanne une fois sur deux. Hein. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir madame à la maison et monsieur qui allait labourer, il fallait que tous les deux aillent labourer. Et à ce moment-là, évidemment, vous n'avez pas la même notion de hiérarchie puisque la femme faisait la même chose que ce que faisait l'homme. Voilà. Tout bêtement, donc il y avait un côté opérationnel qui est, si elle était meilleure avec une épée, ben, c'était elle qu'on prenait et puis on laissait le mec qui allait labourer. Quoi. Voilà. On avait vraiment un travail parce que ça relevait de la survie. Et ça, on a tendance à l'oublier. On vous dit, il y a une espèce de hiérarchie qui fait que Dieu a créé ceci, a créé cela. Dieu n'avait rien créé du tout. Vous avez à un moment donné des gens qui, dans un espace donné, avec des besoins donnés, essayaient de survivre et, si possible, de s'agrandir, de reproduire. Bon. Mais à ce moment-là, on n'était pas dans une situation hiérarchique de ce type-là. C'est apparu beaucoup plus tard.
C'est les pires, hein. Méfiez-vous, mon troll fait des trucs comme ça. Voilà.
Je voudrais, mais parce qu'il reste très peu de temps, ou plus de temps, je voudrais ajouter une chose, toujours à propos de Viking, où il y revient. S'il vous plaît, lisez des textes, des Eddas et des sagas traduites, bien traduites. Par exemple, Patrick Gelpa vient de faire la saga de Björn, qui est remarquable. La poétique des Nordiques est la plus élaborée de toute la civilisation occidentale depuis les débuts. Elle est fondée sur des images qu'on appelle des eti, c'est-à-dire des synonymes, des kenningar, c'est-à-dire des métaphores, des allitérations, des répétitions, des accentuations et une musique. Ces textes sont chamaniques, ils sont merveilleux. Et vous allez reconnaître dans un tas d'œuvres classiques, c'était un peu ce que je voulais dire au début, vous allez reconnaître cette beauté. Et ça, monsieur, je ne l'ai pas trouvé dans Viking. J'ai vraiment l'impression d'avoir les gars qui font « Bon, roi de France, c'est ton dernier jour. » Grosso modo. Mais ces gens-là ne réfléchissaient pas comme ça. C'était des luttes, c'était des besoins momentanés. Mais ils avaient une vision du monde. Ce n'étaient pas des brutes épaisses. S'il y a vraiment une chose que je voudrais souligner trois fois en fluo qui n'existait pas du temps des Vikings, eh bien c'est ça. C'est qu'ils vivaient dans une poétique du monde, dans une vision globale dont nous ferions peut-être bien de nous inspirer pour essayer d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. Voilà. Bon, là-dessus, j'ai dit et je n'irai plus rien. De toute façon, la disponibilité des textes d'anciens norrois ou d'islandais ou des langues, enfin, des cultures scandinaves en règle régionale est tellement peu importante en France qu'il y a pratiquement, sauf peut-être pour Joël, je ne sais plus comment, qui a commis un truc historique assez navrant, mais en tant que pour les traducteurs, pour les présentations des textes anciens, vous en trouvez. Jean-Claude a parlé des sagas islandaises tout à l'heure en Pléiade, qui est magnifique, oui, oui, qui est vraiment très très bien fait. Il y a des textes qui ont été traduits par Régis Boyer, on en trouve chez Gallimard, je crois, dans la collection L'Aube des Mondes, L'Aube de l'Humanité, je ne sais plus. Il y a la traduction de François-Xavier Dillemann sur la naissance, sur la genèse du monde, selon les Scandinaves. Et autrement, aux belles lettres, il y a beaucoup de traductions de sagas. Et j'ai vu que dernièrement, je crois que c'est aux belles lettres aussi, ils ont commencé à sortir les traductions de Régis Boyer sur toutes les sagas. Toutes celles qui n'avaient pas su. En fait, les sagas islandaises, il y en a très peu dans la Pléiade. Il y en a neuf, il y en a très peu, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à traduire. Il y a peu de traducteurs. Alors on en trouve beaucoup plus en anglais. Et puis bon, en norvégien ou en suédois aussi. Mais bon, il faut s'y mettre.
Quand
collection Anakar 6 aussi,
oui, voilà,
saga islandaise, réalisée essentiellement par Feu Régis Boyer, auquel je pense là pour le moment, c'est un sacré personnage, et Jean Renaud. Et je voudrais peut-être terminer sur une petite note poétique. Est-ce que vous me l'autorisez, oui, Madame la Présidente? Donc voilà. Un jour, il a fallu ligoter l'affreux Fenrir, qui était un loup abominable, qui a d'ailleurs provoqué, qui a mangé le loup d'un, enfin mangé le bras d'un des dieux. Et comment est-ce qu'on le ligote? On doit chercher des liens extrêmement solides. On cherche de la corde, on cherche du câble, on cherche toutes sortes de choses. Eh bien non. Les nains ont inventé une corde exceptionnelle. Donc, faite de bruit de pas de chat, de barbe des femmes, de salive des moineaux, de respiration des poissons et, pour finir, de racines des montagnes qu'on a été cueillir. Et de cela, les nains font des liens absolument extraordinaires qui font que Fenrir est quasiment prisonnier jusqu'au moment du Ragnarok. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait retenir. Pour moi, c'est un résumé de tout. Il y a cette folie, cette poétique qui remplit tous les textes nordiques, et je crois que chacun de notre côté, lui par son humour extraordinaire, lui par ses connaissances de l'après-Ragnarök et accessoirement moi par les histoires, sur fond d'histoire que je raconte, on a essayé de rendre, je crois qu'on a voulu rendre justice à une certaine façon de penser.
Oui, je trouve aussi effectivement cette poésie, c'est vraiment la chose qui est le moins mise en avant par le dans ce qu'on voit, dans ce qui est le plus diffusé finalement. Mm-hmm. C'est dommage.
Sauf Thor finalement chez Marvel, qui a une poésie assez humoristique, un peu guerrière, mais qui est un personnage très sympathique.
Et d'ailleurs, il est teint en blond. Vous l'avez remarqué alors qu'il est roux en principe.
Oui.
Il a des expressions extraordinaires. Quand il casse quelque chose, il fait oh, ben c'est pas grave, hein. Ça n'avait pas beaucoup de valeur. Ou bien ça n'aurait pas dû se trouver là. Et puis la plus extraordinaire avec Loki, à un certain moment, il y a un type qui dit « Mais Loki a tué je ne sais plus combien d'hommes chez nous !» Et il répond « Loki est mon frère, ce qui est une erreur. » Mais enfin, Loki est mon frère. Et l'autre lui dit « Mais enfin, il a tué tout le monde !» C'est normal, il a été adopté.
Ça, c'est de l'humour scandinave.
Ça, c'est de l'humour scandinave.
Voilà. Il faut quand même rendre justice un petit peu à Marvel là-dessus. Oui, le personnage de Thor est délicieux. Ouais, oui. Il est beau. L'acteur.
Je crois qu'on va s'arrêter là.
Oh là là, je vais ramener les réseaux.